l'information est un élément de connaissance. Alors, soyons des citoyens mieux informés. Radio Manéléo, c'est l'heure du journal.
Exactement 6h15 minutes à Bukavu, mesdames, messieurs. Bonjour et bienvenue pour suivre ce Radio Journal. Le fil de l'information en quatre titres. Depuis début octobre de l'année en cours, plus de 5 personnes ont été tuées à bout portant par des personnes armées à leur domicile dans la plaine de la Ruzizi. La nouvelle société civile congolaise en territoire d'Uvira plaide pour le renforcement des mesures sécuritaires, surtout en cette période des festivités de fin d'année. Un plan quinquennal pour le développement de la province du Sud Kivu a été validé hier jeudi par le gouverneur de province. Ce plan est évalué à plus de 639 milliards de francs congolais, soit environ 213 millions de dollars. Il prévoit plusieurs piliers, parmi lesquels la modernisation et la construction des infrastructures. En sport, Ligue 2 de la Lina Foot Zone Est, plusieurs matchs au programme ce vendredi à Bukavu. 13h, Académie Real affronte l'AS Mwangaza et à 15h, la JS Bou en découdra avec le FC Mwangaza à Uvira. Maïka recevra l'US Sokozaki hier en Ligue 1 Iliko Cash, opposé à l'Académie Football Angers de Kinshasa. Les Corbeaux de Bukavu ont perdu sur le score de 3-4. Et comme invité, nous recevons Chikuru Macheka, coordonnateur du programme de financement des risques des catastrophes chez RDC. Il nous parle d'un atelier organisé à Bukavu. Dans la rubrique éléments de reportage, José Kaé, président fédéral du parti politique Dynamique pour le bien-être des Congolais, invite les jeunes à s'engager activement pour un leadership politique de référence. À suivre dans la deuxième partie de ce radio-journal qui est mise en onde par Alain Zahar. Bienvenue à tous.
6h15 vous est présenté par Expedi Kialou.
Ce journal part du Nord Kivu. Les forces armées de la RDC ont tout fait hier jeudi 12 décembre pour déloger les rebelles du M23 de la localité de Kasege, située à 60 km de Lubero, centre au Nord Kivu. C'est à la faveur des combats entamés tôt le matin entre les forces loyalistes et les rebelles pour le contrôle de cette localité. Les rebelles du M23 qui partagent avec les FARDC le contrôle de la localité de Kasege ont attaqué le position de l'armée. Après quelques heures d'intenses affrontements, les lignes de défense des deux camps n'ont pas bougé. D'un côté, les forces armées cherchent à déloger le M23 de Kasege, tandis que les rebelles s'efforcent de maintenir leur position. Le contrôle de Kasege revêt une importance stratégique, offrant une vue et des voies d'accès vers la commune rurale de Kirumba, toujours sous occupation rebelle. Et au sud de Kivu, la nouvelle société civile congolaise en territoire d'Uvira dresse un bilan de plus de 5 personnes tuées à bout portant par des inconnus armés à leur domicile sans intervention des services de sécurité dans la plaine de la Ruzizi depuis les débuts du mois d'octobre. Cette structure note la léthargie des services de sécurité et la situation qui devient de plus en plus inquiétante dans cette partie du sud Kivu. Biamungu Chamamba, président de la nouvelle société civile congolaise en territoire d'Uvira, plaide pour le renforcement des mesures afin de garantir la sécurité aux habitants, surtout en cette période des festivités de fin d'année. Il en parle.
Nous, acteurs de la nouvelle société civile congolaise en territoire de Vira, nous sommes frappés par la désolation. Nous pensons que vraiment la vie humaine n'a plus de valeur dans la cité des Sangues où on vivait déjà sans constater un camp pareil. C'est ainsi, à notre niveau, nous interpellons les services de sécurité qui est obligé de faire la sécurité de proximité et promouvoir la protection civile, prévenir tous les dangers possibles contre la population congolaise. Nous appelons notre population aussi de faire franche collaboration, dénoncer mutuellement toute situation éventuelle afin que les vies humaines soient protégées, mais aussi les biens qui sont régulièrement volés.
Nous partons en territoire de Calais à présent. Un beau temps provenance du sous-village de Vahé. Dans le groupement de Bouzi, nous sommes en territoire de Calais pour Kibouye. Au Rwanda, c'est renversé en début de soirée d'hier jeudi sur le lac Kivu. Les passagers à bord et le moteur ont été sauvés de justesse et ramenés à Miramba Nobo. Nous sommes toujours dans le groupement de Bouzi. Aucun mort, mais l'argent et les biens des valeurs ont été immergés dans l'eau. La forte vague suivie de la tempête serré à la base de cet accident. L'embarcation appartient à la Kobob, qui est une structure locale des vendeurs des bovins et volailles. L'ancien civil force vive du groupement de Bouzi, par le biais de son président Sadiki Juge, rappelle au gouvernement sa responsabilité de faire appliquer les mesures de navigation pour la protection de la population. Et le gouverneur de province, Jean-Jacques Pourroussi, est appelé à intervenir pour mettre fin au conflit opposant les agriculteurs de la plantation des Katachola dans la localité de Mungoza, groupement de Mbinga Sud, chefferie de Bouavu, au sinistré des catastrophes naturelles survenues à Bouchouchou le 3 mai 2023. Cette demande est contenue dans une correspondance du mouvement citoyen Lutte pour le changement Lucha adressée au gouverneur de province avec copie déposée à la rédaction de Radio Mandelo. Le contenu avec Omer Moudekereza.
Ces mouvements citoyens déplorent une escalade des tensions caractérisée par des actes inhumains et des violences entre les agriculteurs et les victimes de la catastrophe de Bouchouchou, actuellement installés sur une partie de cette concession. Dans cette correspondance, ces mouvements citoyens ont dit que les sinistrés détruisent les cultures des agriculteurs et sont à la base de plusieurs autres dérapages, comme l'enlèvement des deux agriculteurs au mois de novembre dernier. Le mouvement citoyen Lucha de Calais plaide pour la mise en place d'une commission mixte pour identifier les véritables sinistrés et évaluer leurs besoins afin de prévenir des tensions plus grandes. Il plaide également pour la mise en œuvre d'un programme concret de relocalisation des sinistrés affectés sur cette presqu'île, avec un soutien matériel et financier pour leur reconstitution tout en préservant le droit des agriculteurs. Valet Chebujongo, militant du mouvement citoyen Lucha Calais, en parle.
Actuellement, il s'observe un comportement de barbarie jusqu'à ce que ces sinistrés s'attaquent aux gens, détruisent les plantes forestières ou agroforestières qui sont dans cette plantation. Ce comportement de violence pourrait conduire à un conflit contrôlable si les autorités ne prennent pas courage. C'est ainsi que la Lucha a décidé de saisir le gouverneur de la province de Sud-Kivu pour qu'il puisse s'impliquer dans ce dossier afin d'éviter les conflits qui pourraient se dégénérer dans les jours à venir si les autorités ne s'impliquent pas chacun à son niveau.
Contacté à ce sujet, Lawi Roussicha, président des sinistrés du camp de Katachola, indique qu'il n'y a pas de conflit entre eux, les agriculteurs. Cependant, notre source se rejette en bloc toutes ces accusations. On dit que les agriculteurs sont plutôt mécontents de voir que les sinistrés ont été installés dans leurs concessions.
Et à Bukavu, nous venons de l'apprendre, un corps sans vie d'un jeune homme d'environ une trentaine d'années a été retrouvé tôt le matin de ce vendredi 13 décembre sur avenue route d'Ouvira 2, non loin de la cabine Snell en commune d'Ibonda au quartier Ndendere. Selon une source sur place, la victime serait un voleur électrocuté par les câbles électriques de la Société nationale d'électricité Snell au moment où il s'apprêtait à commettre son forfait à une maison en chantier. Le corps reste toujours sur le sol en attendant les services de l'État pour son évacuation. Exactement 6h24 minutes à Bukavu et dans les territoires. Dans quelques instants, la suite de ce radio-journal.
Chaque jour, elle se mobilise pour offrir à ses auditeurs et auditrices des informations à temps réel. Notre principale détermination, c'est de vous servir. Nous, c'est la radio Mandeleo. Plus et mieux pour et avec ses auditeurs.
Vous l'avez suivi au sommaire de ce radio-journal, environ 213 millions de dollars américains constituent le coût global du plan de développement de la province du Sud-Kivu, PDP, en sigle dont la validation politique est intervenue hier jeudi 12 décembre 2024. Celle-ci intervient après une validation technique qui avait eu lieu le 24 octobre dernier dans la ville de Bukavu. Hélène Boudjiriri nous en parle.
Ce plan de développement de la province du Sud-Kivu est de 5 ans et couvre la période allant de 2024 à 2028. Ce document de 160 pages comprend 5 piliers, 30 stratégies, 96 objectifs et 528 actions prioritaires. Selon le gouverneur du Sud-Kivu, Jean-Jacques Pourroussi, ce plan quinquennal servira de boussole pour le gouvernement provincial dans la concrétisation de son programme de développement. Pour y arriver, insiste le professeur Jean-Jacques Pourroussi, la province va mettre sur pied une politique fiscale rigoureuse.
C'est la boussole pour tous nos plans, tous nos projets, tout ce que nous comptons faire. Lorsque nous avons été élus gouverneur de la province du Sud Kivu, nous avons présenté un plan d'action qui s'inscrit dans l'ordre de priorité du président de la République, chef de l'État. Aujourd'hui, nous avons un plan de développement de la province qui vient d'être validé. Il s'agit des projets de reconstruction et de développement qui touchent les infrastructures, la reconstruction et la réhabilitation des infrastructures, que ce soit les routes nationales, mais aussi les routes secondaires, ainsi que les routes des dessertes agricoles. Nous avons aussi des questions liées à la gouvernance. Nous allons renforcer la politique de redevabilité. Nous avons renforcé, non, à part la politique de redevabilité, il y a la bonne gouvernance et la gestion démocratique et transparente de la chose publique.
Au-delà du PDP, le plan d'action prioritaire PAP a été également adopté. Ce dernier est un outil programmatique qui aide à la mise en œuvre du plan de développement de la province. Il sied de préciser que ce plan prévoit trois sources de financement, à savoir les fonds en provenance du pouvoir central, ceux de la province et l'apport des partenaires techniques et financiers. Les 213 millions, soit approximativement plus de 639 milliards de francs congolais, seront mobilisés à raison de 38% comme part du pouvoir central, 19% comme apport de la province, 30% au titre des contributions des bailleurs, et la part des 13% reste toujours à mobiliser. Le processus d'élaboration du PDP avait démarré depuis le 24 septembre dernier. Ce travail a réuni des experts provinciaux conduits par les ministres provinciaux du plan Kasaza Museveni.
Et le ministre provincial des Affaires foncières, Georges Kibongé, annonce une nouvelle vague de mise en place des agents œuvrant dans le secteur foncier au Sud Kivu dans le souci de redorer l'image de cette administration à problème. Il a dit au sortir d'une audience réservée à Kinshasa par la ministre nationale des Affaires foncières, Acacia Bandumbula. Les deux ont échangé sur la nécessité de remettre définitivement de l'ordre dans les affaires foncières au Sud Kivu. Et le tronçon Bukavu-Kavumu-Long de 13 km récemment réhabilité devrait attirer l'attention des dirigeants au vu de sa situation actuelle. Quatre rivières qui tirent leur source dans le parc national de Kahuzi-Biega menacent cette route sur une distance de moins de 10 km depuis Amsar jusqu'à l'entrée du monastère Notre Clarté Dieu de Mouressa. Quelques travaux de cantonnage manuel qui étaient effectués jadis depuis Bouindi en passant par la concession dite Kabila à Ongo jusqu'à Amsar ont été arrêtés. Sur cette route, les caniveaux sont bouchés par des mottes de terre par manque des passages. Les eaux envahissent la chaussée sur le tronçon précité. Bien plus, l'herbe a poussé dans et autour de ces caniveaux au point que la chaussée est devenue le lit des eaux boueuses et autres détritus charriés par les eaux des pluies en provenance des champs situés en amont de cette route. Les observateurs et plus particulièrement les usagers estiment qu'il est temps de sauver cette dernière de peur de revenir à la case départ. C'est le cas de l'acteur sociopolitique Emmanuel Benguéa qui pense qu'au-delà de l'entretien des caniveaux, les quatre rivières devraient être curées afin de prévenir le débordement des eaux qui souvent perturbent la circulation lors des fortes pluies. On l'écoute.
Lorsque ces caniveaux sont bouchés, il n'y a pas le cantonnage manuel qui se fait régulièrement sur ces tronçons. Ces rivières se déversent dans cette route, notamment la rivière Murundu, il y a Mushuva, il y a la rivière Mpungwe également qui se déverse sur ces tronçons, notamment juste l'endroit qu'on appelle Chun, en allant vers Miti. Lorsqu'il pleut, donc cette rivière se déverse dans la route nationale numéro 2 et le lendemain, il n'y a pas les cantonniers pour les évacuer. C'est pourquoi nous insistons, alertons donc les autorités compétentes à faire d'affecter cantonniers et si c'est un tronçon pour que cette route soit régulièrement praticable.
Vous venez de suivre l'acteur sociopolitique Emmanuel Benguéa qui revenait sur la situation du tronçon Bukavu-Kavumu long de 13 km récemment réhabilité. Et le mouvement Laissez Kabar et Vivre MLKV en sigle plaide pour que l'hôpital général de Mukongo la soit doté d'une ou de deux ambulances qui serviront au transport des malades et leur transfert en cas d'urgence vers des structures appropriées. C'est ce qu'on peut lire dans une correspondance adressée au gouverneur de province sur les conditions dans lesquelles vivent les malades au sein de cet hôpital. Dans cette correspondance, le mouvement Laissez Cabaret Vivre explique que c'est depuis 2 mois que des malades sont transportés de manière traditionnelle sur des nattes cousues, sur des sticks d'arbres communément appelés tipos, et certains malades en état de détresse meurent en cours de chemin, tout comme des femmes enceintes qui sont transportées dans des mauvaises conditions. Le coordonnateur de MLKV, Maître Barthélémy Mamboussa, invite le gouvernement provincial et ses partenaires à penser comment doter une ambulance à cette zone de santé qui compte 17 centres de santé, 5 postes de santé et 3 centres hospitaliers. On l'écoute.
En fait, nous sommes en train de décrire une situation critique au sein du bureau central de la zone de santé de Kabare et particulièrement au sein de l'hôpital général de référence de Mukongola, qui ne dispose plus d'ambulance, mais aussi un hôpital qui est, je dirais, oublié. Parce qu'il n'y a pas de matériel médical moderne, mais aussi l'eau de la régie des eaux ne coule plus dans les robinets de l'hôpital. Les malades sont obligés d'aller puiser de l'eau. Mais aussi et surtout, l'hôpital, souvent, l'électricité n'arrive pas à l'hôpital. Vous imaginez même pendant les opérations de chirurgie comment la vie des personnes sont en danger.
Vous venez de suivre Barthélémy Amwamboussa du mouvement Laissez Cabaret Vivre. Et avec vous, Hélène Boudjiriri, favoriser les échanges et la transmission des savoirs dans le cadre de la valorisation de la culture traditionnelle féminine Regaichi dans la ville de Bukavu. C'est entre autres objectif d'une activité de 2 jours tenue par l'organisation Debout Femmes pour le changement durable et ouverte jeudi 12 décembre 2024.
Yvette Chirouza Bantangue, coordinatrice de l'organisation Debout Femmes pour le développement durable, explique que pendant ces 2 jours, les femmes artistes des différentes tribus et communautés vont se retrouver ensemble pour la promotion de la paix et la cohabitation pacifique pour le développement de la Provence. À travers cette activité, elle a fait savoir que son organisation veut aboutir à favoriser les échanges et les vivre ensemble entre communautés, initier les jeunes générations à s'intéresser à la culture qui fait partie de leur identité. Yvette Bantangue.
Nous voulons aboutir à favoriser les échanges et la transmission des savoirs dans le cadre de la valorisation de notre culture, surtout pour nous les femmes. Déjà quand on danse ensemble, déjà quand on parle, quand on fait des échanges, mais aussi on veut initier les jeunes générations à avoir des idées, à s'intéresser aussi de la culture, parce que la culture fait partie de notre identité. Et donc, on ne peut pas s'en débarrasser d'une façon ou d'une autre. Nous sommes liés à ça. Et donc, c'est très important pour ce débat-là. Les femmes âgées et les jeunes filles auront à échanger, à partager les expériences, mais aussi à valoriser ensemble et voir comment valoriser encore nos cultures.
Pour la journée de vendredi 13 décembre, il est prévu une exposition des œuvres traditionnelles fabriquées par les artistes traditionnels femmes. L'activité se tient dans le cadre du projet portant promotion de la culture traditionnelle féminine comme facteur de l'inclusion et la cohabitation pacifique dans la ville de Bukavu, grâce à l'appui de l'organisation Ouezo Africa. Ces travaux se tiennent dans la grande salle du centre de lecture et d'animation culturelle située dans l'enceinte de l'Athénée d'Ibanda.
Et prévenir les risques liés aux catastrophes sensibles au conflit, c'est entre autres objectif que vise le projet Grand Lac, innovation dans la gestion des risques de catastrophes sensibles au conflit, dont le lancement est intervenu hier jeudi à Bukavu dans la province du sud au Kivu. Plus de détails avec Omer Moudekereza.
Ce projet met un accent particulier sur les actions anticipatoires pour prévenir les risques liés aux catastrophes, contrairement au projet d'urgence qui apporte des réponses aux victimes des catastrophes. C'est réjoui Charles Moudam, directeur du cabinet du gouverneur de province, précisant qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Dans son discours de lancement, Charles Moudam rassure l'accompagnement du gouvernement provincial pour la réussite de ce projet qui s'inscrit dans la vision du gouverneur de province Jean-Jacques Pouroussi. Ce même avis est partagé par les coordonnateurs provinciaux de la protection civile du Sud-Kivu, Jean-Marie Boucher, qui qualifie d'une réponse favorable de sa structure dans son service d'alerte précoce sur la prévention des catastrophes sensibles au conflit. Ce projet est mis en œuvre par un consortium de 3 organisations, dont le Programme alimentaire mondial PAM, l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation FAO et la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, avec l'appui financier de l'aide humanitaire et la protection civile de l'Union européenne et le gouvernement congolais. Il sera exécuté dans 2 territoires du Sud-Kivu, donc à l'Est au Vira, pour une durée de 6 mois. Cette activité de lancement réunit pendant 2 jours les organisations étatiques et non étatiques et se déroule sous la modération du gouvernement provincial du Sud-Kivu à travers la protection civile.
La passion du sport, c'est sur les ondes de la radio Maeneleo. Du lundi au samedi, retrouvez toute l'actualité sportive dans sa diversité sur la meilleure des fréquences.
Vous l'avez suivi au sommaire, poursuite de la Ligue 2 de la Linafoot au Sud Kivu ce vendredi 13 décembre 2024. À cette occasion, plusieurs rencontres sont inscrites au calendrier déjà à Bukavu. À partir des 13h ce vendredi, l'Académie Réale recevra l'AS Mwangaza d'Uvira. Deux heures plus tard, la jeunesse sportive de Bukavu, JSBU, en découdra avec le FC Mwangaza de Goma. En revanche, à Uvira, ce même vendredi à 15h, l'AS Maïka accordera son hospitalité à l'US Sokozaki à Goma au Nord Kivu. Place à deux rencontres. À 13h, Étincelle ira à l'assaut du FC Mulazo et à 15h, l'AC Capaco retrouvera l'AC Brésil de Goma. Le calendrier prévoit demain, samedi 14 décembre 2024, à Bukavu, une confrontation entre l'OC Mungano et les Daring Club Virunga de Goma, et Kabasha recevra à Goma l'AS Nyuki. Par ailleurs, en division d'honneur, l'OC Bukavuda traverse une zone de turbulence. En Ligue 1, Illico Cash opposé hier jeudi à l'Académie Football Angelaire de Kinshasa, les Corbeaux ont perdu par 3 buts à 4. Bukavuda est sur une série sombre de 2 défaites et 1 nul lors des deux dernières journées du championnat national. Au terme de cette rencontre, Lokoi Afankoy des Anges Verts de Kinshasa a été plébiscité homme du match. Juste après cette première confrontation de l'après-midi d'hier, toujours dans le même groupe, l'ASV Club de Kinshasa a battu l'AS Kouya sur le score de 3 buts à 1. En revanche, dans l'autre groupe, Lupopo a perdu devant la JS Group Bazano sur le score d'un but à 2.
Radio Maeneleo, la radio de développement, place à l'invité du journal.
Réfléchir sur les mécanismes de financement des risques des catastrophes en RDC, c'est l'un des objectifs d'un atelier de réflexion organisé à Bukavu. J'y arrive par le réseau des organisations non gouvernementales, nationales et internationales humanitaires pour la localisation de l'aide en RDC, ABRDC, Stats Network. Cet atelier sera également un moment pour faire connaître cette organisation aux participants et les financements de risques des catastrophes en RDC. À cela s'ajoute l'identification des nouveaux risques sur lesquels ABRDC peut travailler, à part ceux liés à l'inondation fluviale qui est son domaine d'intervention. Invité de la rédaction, Tikuru Macheka, coordonnateur du programme de financement des risques des catastrophes chez ABRDC, explique la portée de ce travail dans cet entretien avec Hélène Boudjeriri.
Monsieur Tikuru Macheka Léon, bonjour.
Bonjour, madame.
Vous êtes le coordonnateur du programme des financements des risques des catastrophes au sein du ABRDC. On peut savoir c'est quoi ABRDC?
ABRDC est un réseau humanitaire et des organisations nationales et autres partenaires tels que le secteur étatique, le secteur privé comme l'AFEC, les organisations nationales et internationales et les institutions de recherche. Tous avec une seule vision d'accompagner les communautés victimes de catastrophes au sein de la RDC.
Quels sont vos domaines d'intervention?
Actuellement, nous intervenons, comme je le disais, dans la gestion, la prévention et la préparation aux catastrophes. C'est le principal domaine auquel nous travaillons. On travaille dans la réponse rapide en cas de catastrophe, mais on travaille aussi dans le cadre de la prévention et de la préparation aux catastrophes dans le cadre anticipatoire.
Dans quelle zone?
Actuellement, nous sommes dans la zone Kindu. Nous sommes dans la ville de Kindu, nous sommes dans le territoire du Sangui, ça c'est dans la province de la Tchoko, et à Kinshasa. Et puisque c'est là qu'il y a le modèle sur lequel nous travaillons, qui est le modèle des inondations fluviales, donc les inondations dues au fleuve. Et donc c'est là qu'on concentre d'abord les efforts aujourd'hui, mais avec comme intention de revenir aussi au site Kivu Tanganyika avec les inondations lacustres dues au lac Tanganyika.
Aujourd'hui, un atelier organisé dans la ville de Bukavu, c'est pourquoi?
Comme je le disais, le hub RDC, c'est un sous-ensemble de ce que nous appelons Start Network. Start Network qui est un réseau international des organisations humanitaires. Et donc, comme institution, le hub a une stratégie de financement des risques de catastrophe. Et donc, c'est cette stratégie que nous sommes en train de réviser aujourd'hui et questionner sur les résultats déjà atteints et les défis rencontrés.
Alors, vous vous attendez à quel résultat?
Bon, d'abord, le premier résultat pour nous serait que les membres soient renforcés en capacité sur ce que c'est le hub et sur ce que c'est cette stratégie-là, le DRF, c'est-à-dire de financement des risques de catastrophe. Ça, c'est le premier résultat. Le second résultat, c'est d'identifier les nouveaux risques sur lesquels on pourrait travailler, à part les risques liés à l'inondation fluviale. On veut identifier d'autres risques au niveau de la RDC qui causent beaucoup de catastrophes. Et enfin, nous voulons aussi mettre à jour la cartographie des membres, hein, des acteurs dans les mécanismes. Donc, on veut savoir qui sont d'autres acteurs qui interviennent dans la gestion des risques de catastrophes et définir aussi les conditions avec lesquelles on voudrait aussi collaborer avec eux.
Monsieur Chikuru Macheka Léon, je rappelle, vous êtes coordonnateur du programme de financement des risques de catastrophes au sein du HAB RDC. Radio Mandela, vous remercie.
Merci beaucoup, madame la journaliste.
L'actualité sous une autre facette pour votre meilleure compréhension des faits saillants qui ont marqué dans différents domaines de la vie. Radio Mandeléo vous propose l'élément des reportages.
Les jeunes du Sud Kivu en particulier de la RDC en général sont invités à s'engager activement pour un leadership politique de référence et ouvrir ainsi le couloir de leur accès à la gestion de l'État et leur inclusion dans le processus de paix et de sécurité dans les zones affectées par les conflits. Message de Josué Kayeye, président fédéral du parti politique Dynamique pour le bien-être de Congolais, DBC en sigle, et ancien candidat sénateur au Sud Kivu en marge de la célébration du 9e anniversaire de la résolution 2250 du Conseil de sécurité des Nations Unies en faveur des jeunes. Il indique que cette résolution reconnaît les jeunes comme acteurs de paix, surtout dans le rôle qu'ils jouent pour qu'il y ait des sociétés inclusives. Josué Kayeye, président fédéral du parti politique DBC, du professeur Papi Fernand Kimwanga, un parti membre du regroupement politique Alliance pour les valeurs AV, cher au premier vice-président du Sénat, José Kalala Wakalala, en parle dans cet élément de reportage.
À cette occasion du 9e anniversaire de la résolution 2250 du Conseil de sécurité des Nations Unies, le message que la dynamique pour le bien-être des Congolais de BC, moi particulièrement en tant que jeune acteur politique en province, nous pouvons inviter le jeune du Sud Kivu, le jeune de la République démocratique du Congo, à s'engager activement pour un leadership politique de référence pour ouvrir ainsi le couloir, notre accès à la gestion des affaires de l'État, qui permet également et concrètement notre inclusion dans les processus de paix et de sécurité dans des zones affectées par les conflits. Allez-y comprendre que cette résolution 2250 du Conseil de sécurité des Nations Unies reconnaît pour la première fois le rôle que joue le jeune pour des sociétés inclusives et pacifiques. Et donc, les jeunes ont un rôle très important dans la pacification des zones affectées par les conflits, lorsque nous remarquons que les jeunes sont doublement acteurs de paix, dans le sens qu'ils sont d'une part des instruments utilisés comme acteurs de violence et d'une part comme acteurs de paix. Malheureusement, lorsqu'il s'agit des négociations, des enjeux de paix et de sécurité, les grands absents sur des tables de négociation, ce sont toujours des jeunes. Alors que lorsque vous remarquez dans des zones affectées par les conflits, dans notre province ici au Sud Kivu, ce sont les jeunes qui sont outils, ce sont des jeunes qui sont armés, ce sont des jeunes qui sont sensibilisés dans les groupes d'autodéfense, dans des milices, et donc vous comprenez que les jeunes ont un rôle très important à jouer dans les négociations de paix, dans la pacification des zones affectées par les conflits. Mais nous soulignons par cette occasion que la participation politique des jeunes est la seule voie très sûre qui peut conduire à la participation des jeunes aux négociations de paix. À cette occasion du 9e anniversaire de la résolution 2250 du Conseil de sécurité des Nations Unies, le message que nous avons pour la jeunesse du Sud Kivu et la jeunesse province de la République démocratique du Congo, c'est de leur inviter à s'engager activement à la participation de la gestion des affaires de l'État, ce qui est une voie très sûre de leur inclusion dans les processus de paix et de sécurité dans des zones affectées par les conflits.
Communiqué avant la fin de ce radio-journal, la commission chargée de l'entretien routier axe Baraka-Fizi porte à la connaissance des transporteurs qui fréquentent ce tronçon qu'une réunion d'évaluation est prévue ce vendredi 13 décembre 2024 au bureau de la TRAPROC à 11h. Juste pour ce faire, il est demandé à tous les transporteurs exerçant le trafic sur la RN5 de se présenter pour s'imprégner de l'évolution des travaux exécutés pendant ce 3 mois. La présence de tous et le respect des leurs sont d'une importance capitale. Pour la TRAPROC, Anderson Mubasi, président, signe ce communiqué. Le nouveau comité du collège provincial des étudiants du Sud-Kivu qui avait été élu après les élections crédibles, transparentes et exclusives organisées sous la conduite du bureau de coordination de la société civile Force Vive du Sud-Kivu informe à tous les étudiants que son investiture intervient ce vendredi 13 décembre 2024. Cette grande manifestation qui marquera une nouvelle ère dans le monde étudiantin au Sud-Kivu commencera à partir des 13h dans la ville de Bukavu ce vendredi. La manifestation se déroulera à l'hôtel New Riviera, situé non loin de l'Assemblée provinciale du Sud-Kivu à La Botte en commune d'Ibanda. Fait à Bukavu, le collège provincial des étudiants du Sud-Kivu convoque donc cette réunion. Exactement 6h46 minutes par ici prend fin ce radio-journal. Alain Zara a assuré la mise en onde devant ce micro pour la présentation expéditive. Vous passez une excellente journée en compagnie de Radio Mandelo. Surtout, bon début de week-end à vous tous. Au revoir.